Exclusif de nos collègues au 98.5 à Montréal, on a appris qu'il y a un total de 13 détenus au pénitencier de Donnacona qui ont été victimes d'intoxication ou d'overdose de fentanyl dans la dernière année. Et parallèlement à ça, il y a une nouvelle qui est sortie il y a quelques jours dans le temps des fêtes concernant les drones au pénitencier de Donnacona. À quel point c'est complexe de les intercepter. On a réussi à en intercepter deux avec une panoplie de drogues, d'équipements électroniques à son bord. On parle
du cellulaire, des machines à Wi-Fi, des chargeurs de téléphone, des cartons de cigarettes.
Des dizaines de milliers de dollars en valeur en dedans, on dit valeur institutionnelle. Pour éclairer la question, on va aller parler au directeur adjoint des services de gestion pénitentiaire de Donnacona, Stéphane Jaillet. Bonjour, Monsieur Jaillet.
Bon midi.
D'abord, on parle de 13 intoxications, overdose. Est-ce qu'on parle d'un nombre anormalement élevé?
C'est un nombre, évidemment, qui est en croissance depuis les dernières années. On se rappelle que il y a 4 ou 5 ans, le fentanyl, on n'en entendait à peu près pas parler. Puis c'est parti de l'Ouest, ça s'est déplacé tranquillement. Puis maintenant, c'est un phénomène qu'on retrouve même dans la communauté ici au Québec.
Les opioïdes en tant que tels, à quel point c'est un problème à l'intérieur des murs du pénitencier?
C'est un problème majeur au niveau de la consommation, au niveau des méfaits que ça cause aussi. Pour vous donner une idée, on a des programmes de méthadone et de suboxone afin d'aider les détenus à sortir du cycle de consommation. On a présentement une quarantaine de détenus qui sont sur ces programmes-là sur un total de 290 détenus qu'on a à l'établissement présentement.
Et là, vous vous retrouvez à devoir équiper vos agents avec du naloxone, qui est l'espèce d'antidote au fentanyl, finalement. Là, vous les équipez à ça, puis eux doivent être aux aguets constamment de quelqu'un qui pourrait être en état d'overdose. Vous avez donc même honoré certains agents qui ont sauvé 6 et 7 détenus qui étaient en overdose. C'est quand même particulier.
C'est assez particulier. Je vous dirais que le naloxone réagit aux opioïdes, pas seulement aux fentanyl. Okay, ouais. Puis effectivement, au mois d'octobre dernier, l'Association internationale des affaires correctionnelles et pénitentiaires avait un congrès international à Montréal. Puis on a effectivement 2 agents qui ont été honorés avec un prix pour rendement exceptionnel. Pour avoir effectivement, lors de leur ronde de sécurité, intervenu auprès de détenus qui étaient en état de overdose et leur avoir certainement sauvé la vie.
Les détenus qui ont des problèmes de consommation d'opioïdes ou de fentanyl, est-ce que c'est des gens qui ont développé leur dépendance à l'extérieur du pénitencier ou depuis leur incarcération?
Ben, je vous dirais que généralement, on reçoit une partie de détenus qui sont effectivement déjà des consommateurs à l'extérieur avant de se retrouver à purger du temps au niveau du pénitencier, que certains aient développé une problématique de consommation à l'intérieur, je pourrais pas vous dire exactement, mais il y a certainement une grande partie qui provient là, déjà de la communauté avec un problème de consommation.
Ça rentre comment le fentanyl à Donnacona?
Plusieurs manières. Évidemment, on a des détenus qui sortent, qui vont à leur comparution à la cour. Lors de ces trajets-là, il y a souvent de l'échange de stupéfiants qui se fait entre détenus. Ils ramènent ça dans leur cavité corporelle. Ça arrive aussi lors des visites. Puis, comme vous en parliez d'entrée de jeu, mais évidemment, livraison par drone, c'est le phénomène qui a remplacé les balles de tennis avec les flèches, puis il y a une couple de données.
Parlez-nous-en des fameux drones, parce que ce qu'on semble lire, nous, dans les médias, dans les journaux, c'est que, franchement, c'est extrêmement difficile d'y voir arriver, puis vous avez pas les méthodes vraiment pour intercepter les drones, à part quand, un coup de chance, tu le vois passer, puis tu l'interceptes, là.
On a des agents qui sont des fins observateurs, je vous dirais, parce qu'il faut savoir qu'il y a de la patrouille continuellement autour du pénitencier 24 heures par jour. Généralement, ça va être eux qui vont détecter les premiers l'apparition d'un drone. C'est ce qui est arrivé lors de la saisie là, entre Noël et Jour de l'An, effectivement.
Mais vous estimez que vous êtes capable d'en intercepter combien sur ce qui rentre? Êtes-vous capable de calculer?
Difficile de dire. Ouais. Par contre, je vous dirais que présentement, le service correctionnel est en développement avec le Centre canadien de recherche afin de justement pourvoir les établissements avec des moyens de détection efficaces pour contrer les approches de drones au niveau de l'établissement.
Quand il y a un drone qui est intercepté, là, ben c'est peut-être absurde ma question, là, mais est-ce que vous êtes capable de retracer le détenu ou ben un groupe de détenus qui peut avoir fait appel à quelqu'un à l'extérieur pour les expédier?
On a trois agents de renseignement qui travaillent au niveau du pénitencier en étroite collaboration avec les services de renseignement au niveau des corps policiers. On arrive souvent à remonter le fil. Il y a même déjà eu des arrestations de fait à l'extérieur chez des individus qui se préparaient à lancer des drones pour les envoyer faire une livraison ici. Là.
De quelle façon vous intervenez auprès des détenus? Là? Il y a une problématique réelle, mais de quelle façon on peut intervenir auprès des détenus pour essayer de prévenir en quelque sorte soit les intoxications, soit l'arrivée de drogue ou de matériel illégal à l'intérieur des murs?
Écoutez, on a une panoplie de moyens de détection, les chiens, des appareils de détection ionique. Les agents font un travail extraordinaire au niveau des fouilles à partir du moment où on a justement du renseignement qui nous permet de croire que dans telle ou telle rangée, on aurait présence de stupéfiants. Il y a des fouilles qui sont effectuées afin de retirer le maximum possible là, de la drogue en circulation. Puis, évidemment, on compte sur le renseignement qui est développé par nos agents pour pouvoir avoir accès justement aux informations nécessaires pour mener ces fouilles-là.
Il y a un mythe hein, sur la vie carcérale, comme quoi quand il y a de la drogue qui est rentrée, ça maintient à quelque part un peu la paix entre les détenus parce que un détenu en manque est un détenu turbulent. Est-ce que des fois vous remarquez dans l'ambiance générale que c'est plus tendu, il y a plus de chicanes, puis d'autres fois c'est plus paisible? Est-ce que c'est des choses que vous observez?
C'est effectivement un mythe. Vous avez bien décrit la situation. Là.
Oui.
Dans l'ensemble, quand on se retrouve avec du renseignement, c'est souvent des détenus même à l'intérieur de l'établissement qui vont dénoncer, si on veut, la présence de stupéfiants à l'intérieur à cause de la violence que ça crée, soit suite à de la consommation ou par des dettes qui sont cumulées. Où les détenus, finalement, embarquent dans une espèce de spirale de laquelle ils peuvent pas sortir. C'est pas l'idéal d'une façon ou d'une autre, puis c'est effectivement un mythe que de croire que on va fermer les yeux sur de la présence de drogue douce ou peu importe, c'est tolérance zéro, puis on va saisir tout ce qui est à notre portée au niveau des fouilles.
Donc. La saisie qui a été faite dans le temps des fêtes, là, c'était, on disait, pour 45 000 $ en valeur institutionnelle, donc ce qui circule à travers les murs du pénitencier. Ça peut paraître un peu, un peu néophyte là, comme question, mais ils apprennent où cet argent-là pour se procurer des biens d'une telle valeur quand ils sont en prison, les détenus?
Ben, c'est souvent des paiements qui sont faits de l'extérieur vers l'extérieur. Il y a des montants qui sont transigés via différents comptes bancaires entre les détenus, mais à l'extérieur par une tierce personne, exemple.
Okay.
Vous le dites, vous le mentionnez bien, c'est un montant qui semble extrêmement élevé. Juste pour vous donner un exemple, un sachet de tabac de 50 grammes, présentement, a une valeur institutionnelle de 1000 $.
Hey,
à un moment où le tabac est plus rare, ça va aller jusqu'à 1500 $.
OK, ça fluctue, les prix à l'intérieur des murs fluctuent.
Selon la rareté. Entre un téléphone cellulaire normal et un iPhone qui a plus de fonctions, exemple, iPhone, ça vaut 2000 $ à l'intérieur des murs.
Ça, les iPhones, les cartes SIM, les appareils Wi-Fi, les chargeurs de téléphone, c'est quelque chose qui est très... c'est vraiment dans l'air du temps, là. Ça n'existait pas avant, des appareils électroniques comme ça dans le trafic, là?
Non. Puis, c'est que... Avec le système téléphonique que les détenus doivent utiliser pour communiquer avec l'extérieur, quand on a une raison de croire qu'ils sont en train de préparer une entrée de drogue ou une transaction quelconque, le directeur peut autoriser de l'écoute électronique, tout comme en délivrant un mandat.
Okay.
Alors, l'utilisation des téléphones cellulaires est justement pour contrer ces sources d'informations-là qu'on viendra à bout d'aller chercher sur les lignes régulières.
Vous parliez tantôt, M. Jaillet, de détenus qui dénoncent ces comportements-là. Ils doivent se mettre en danger, eux autres même. Les détenus en question, les personnes qui dénoncent en dedans doivent pas être très populaires auprès de leurs co-détenus?
Ils sont pas très populaires. Ils font ça, évidemment. Ceux qui le font en douce. De manière justement à pas attirer l'attention et à faire en sorte que... Parce que, comme vous le dites, ça pourrait leur attirer des ennuis graves.
N'avez-vous des incidents, justement, quelqu'un qui a dénoncé soit une entrée de drogue puis que vous n'avez pas été en mesure de protéger, les autres ont redécouvert cette équipe et par la suite, il y a eu des conséquences pour lui?
Ben, je pourrais pas vous dire précisément sur des cas comme ceux-là. Par contre, des demandes de détenus qui demandent à se retrouver dans le secteur de protection, exemple, ça arrive fréquemment, là. Et là, il peut y avoir toute une panoplie de raisons qui sont aussi valables les unes que les autres, dont, entre autres, peut-être celle-là, au moment où un détenu aurait peut-être fait une dénonciation, puis que ça se serait peut-être su, ben à ce moment-là, la chaleur est trop importante, puis le détenu préfère prendre la direction du quartier d'isolement.
Monsieur Jaillet, merci beaucoup de nous avoir parlé ce midi.
C'est un plaisir.
Stéphane Jaillet est directeur adjoint des services de gestion pénitentiaire de Donnacona. Record de personnes qui ont subi une intoxication ou une surdose de fentanyl dans la dernière année. Ça prend de l'ampleur et en milieu carcéral et dans la société. Et moi, ce qui m'interpelle particulièrement, Paul, c'est le stress qui doit être sur les épaules des gardiens de prison qui font face à des nouvelles réalités. Ben. Déjà, qui ont une des jobs les plus stressantes au monde. T'es dans un milieu de sécurité maximale. T'es avec des gens qui sont pas des enfants de cœur. Puis là, tu te retrouves à faire face à des gens qui s'intoxiquent avec de nouveaux matériels. Toi, faut que t'apprennes à administrer du naloxone pour leur sauver la vie.
Hey, non seulement ça, mais maintenant, qu'ils sont capables de s'organiser des systèmes de communication avec des téléphones cellulaires, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, ouais. OK, mettons, là, 15 ans. Ils sont capables d'avoir des téléphones cellulaires, donc de communiquer avec l'extérieur, de mieux orchestrer les entrées de produits qui sont interdits à l'intérieur des murs. Ça, c'est une autre affaire. Puis c'est d'autant plus intéressant que M. Jaillet nous dit, on est capable d'autoriser de l'écoute électronique sur des appareils interdits que des détenus ont fait rentrer. Or, ils savent que les détenus utilisent des appareils interdits, des téléphones cellulaires en l'occurrence, mais ils préfèrent les écouter pour recueillir de l'information que d'aller leur confisquer, tu sais. C'est brillant.
Ben oui.
J'aurais jamais pensé à ça.
Tu combats le feu par le feu. Ben. C'est ta seule possibilité. Puis, regarde, lui, on saisit deux drones avec une valeur de 45 000 $ dans des murs de la prison. Combien tu penses qu'il y a de drones qui passent semaine?
C'est sûr.
Tu réussis à en pogner deux, imagine la quantité qui rentre, là. Il doit y avoir des affaires. J'aimerais ça être un petit oiseau, rentrer au pénitencier de Donnacona puis faire une recension de tous les objets que tu peux retrouver.
Ben, on vient d'en avoir quand même...
Un bel aperçu.
Un beau petit aperçu. Très intéressant, M. Jaillet.
Midi 23.